Ça fait plaisir de vous revoir en ce début d'année 2023. C'est toujours un défi et un honneur que de faire le premier message de l'année, ou le dernier. Cette fois-ci, c'est le premier. Et je suis vraiment heureux de pouvoir être là ce matin. Et j'espère que vous aussi. Alors, on peut lancer le PowerPoint. J'ai fait un PowerPoint. Ah, voilà. Alors, de quoi sera faite cette année 2023, évidemment. Nous avons tous des espoirs, une certaine espérance. Il y a aussi des craintes qui sont là. Il y a peut-être de la peur, de la joie, enfin plusieurs éléments qui sont au début de cette année. Il y a des promesses également, des défis qui nous attendent les uns et les autres. Et puis voilà, parmi certains qui peuvent être là, ben, ça peut être de réussir mes études, de trouver un job, de me marier, ou bien que mes problèmes de famille s'arrangent, ou bien encore avoir suffisamment d'argent, etc., etc. Et puis également, eh bien, il y a des soucis qui dépassent notre propre personne en lien avec le climat, avec la guerre qui est à nos portes, etc. Donc nous sommes tous face à certains défis au début de cette année. Et puis, alors, qu'est-ce qui va nous guider et qu'est-ce qui va nous conduire pendant cette année? Pour les plus jeunes, c'est une télévision, si jamais. Voilà, est-ce que ça sera... Alors, j'en ai connu des comme ça, hors des musées. Et puis, alors, est-ce que c'est les nouvelles de la radio? Est-ce que ce sont les nouvelles qui sont diffusées par les réseaux sociaux, la presse, un gourou quelconque? Une personne que l'on va suivre, qui va nous influencer, qui va nous apporter peut-être le calme et la paix pendant un moment. Est-ce que c'est la radio? C'est une radio. Et puis, finalement, c'est quand même moi. Moi-je. Est-ce que c'est moi qui vais conduire mes pas? Est-ce que c'est moi qui décide? Est-ce que c'est moi qui suis aux commandes? Eh bien, vous imaginez bien que ce n'est pas de ça que je vais vous parler, quoique indirectement quand même un peu, mais j'ai choisi ce matin de vous parler d'un des textes les plus connus de la Bible, certainement, c'est le psaume 23. Je crois qu'à peu près tout le monde doit le connaître par cœur, même parmi les non-chrétiens. C'est vraiment un des textes qui est les plus connus de la Bible. Alors, nous allons le lire tout d'abord dans cette version Genève 1979 ou 79. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Hein? Et puis, dans une version parole de vie, psaume de David toujours, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbe verte. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. C'est un très beau psaume qui, je trouvais, est encourageant au début d'une année d'avoir cette certitude que l'Éternel est mon berger. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mais c'est Yahweh, le grand Dieu, le grand je suis, le Dieu souverain qui est avec moi. Ce psaume a été écrit par David, David qui a été un berger pendant sa jeunesse et puis qui a été berger aussi par la suite en tant que roi d'Israël. On les comparait à des bergers, du reste il y a des textes qui en parlent également dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon. Et puis ce psaume 23, il s'inscrit dans une sorte de trilogie, c'est-à-dire qu'il y a avant lui le psaume 22 et après lui le psaume 24. Ah, merci. Le psaume 22 montre le Christ souffrant. C'est le psaume qui commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi te tiens-tu si loin ? Pourquoi ne me sauves-tu pas ? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ?» etc. Et là, on voit le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. On a des versets dans l'évangile de Jean, en dessous, le verset 11 du chapitre 10, Jésus qui dit « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et puis dans les versets précédents, on voit depuis le verset au milieu du texte qui est écrit « Lorsqu'il les a toutes fait sortir, donc les brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Donc nous avons ce bon berger qui est là avec nous, Jésus. Jésus qui a souffert pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Et puis après, nous avons donc le psaume 24. Le psaume 24, c'est un changement de style complet. Il se termine par « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails antiques, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi glorieux. » Voilà, ce sont des versets qu'on cite à l'occasion lors de la louange. On voit là le roi qui est triomphant. Il est installé, il est assis sur le trône de gloire. Et nous avons donc Jésus au milieu, le psaume 23, qui montre Jésus qui a souffert, qui est mort pour nous. Et avant le psaume 24, où nous serons dans l'éternité avec lui, où il est présent avec nous chaque jour. Et le fait qu'il ait souffert à la croix, eh bien, montre que Jésus peut compatir à nos souffrances. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, eh bien, Jésus les comprend et il peut compatir avec nous. On a d'autres versets dans Hébreux, entre autres, qui disent cela. Et puis, également, le fait qu'il soit souverain à la fin, eh bien, permet que nous ayons confiance en lui parce qu'il peut s'occuper des problèmes, il peut les assurer, même les plus graves qu'il puisse y avoir. C'est beau, hein? Et Martin Luther écrivait que de toutes les figures qui s'appliquent à Dieu dans l'Ancien Testament, celle du berger est la plus belle. Il apporte aux croyants une confiance, une consolation ou une sécurité semblable au mot « Père ». Alors, on va revenir sur ce psaume. Nous avons de la chance, il n'y a que 6 versets. Je vous laisse imaginer s'il y en avait 32 ou 186. Il n'y en a que 6, donc nous aurons le temps de nous arrêter un peu sur ces 10 différents versets. Quelqu'un a parlé, ça a été retrouvé, c'était un commentateur biblique qui, en trouvant la Bible de sa maman qui était décédée et en l'ouvrant, a dit que le psaume 23 était le secret d'une vie heureuse, le secret d'une mort heureuse et le secret d'une éternité heureuse. C'est beau. Même face à la mort, qui n'est pas un événement très joyeux, eh bien, en s'appuyant sur le psaume 23, en s'appuyant sur Dieu uniquement, bien sûr, eh bien, on peut vivre cela en étant, alors pas, on va pas être joyeux, on est d'accord, mais en étant dans la paix, dans la confiance que Dieu est avec nous. David affirme au commencement de ce psaume, « L'Éternel est mon berger. » L'Éternel n'est pas un berger quelconque, ce n'est pas le berger des autres, ce n'est pas uniquement « Ah, quelle chance quand même !» Ah, il a un berger qui marche devant lui, ça serait tellement chouette et tout. Non, ce n'est pas, une idée, un concept que le concept de berger, c'est mon berger, c'est son berger. Son berger, et parce que c'est son berger qu'il se l'approprie, eh bien, il peut dire après, je ne manquerai de rien, ou je ne manque de rien. Il ne met aucune limitation à ça. Il ne met pas de limite. C'est pas, ah, si le Seigneur était avec moi, si j'espère que Dieu soit mon berger, j'espère vraiment, je ne suis pas sûr. Mais j'espère, non, il n'y a pas de mais non plus. L'Éternel est mon berger, mais malgré tout, il y a beaucoup de travail avec les autres et il ne va pas beaucoup s'occuper de moi. Non, c'est l'Éternel est mon berger. Et comme David, eh bien, nous pouvons l'affirmer les uns et les autres, l'Éternel est mon berger, j'espère. On voit dans le livre d'Ésaïe que, au verset 40, chapitre 40, verset 11, là il y a un petit peu plus, mais il est parlé de l'Éternel comme d'un berger qui s'occupera de son troupeau, qui prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine et qui conduira les brebis qui allaitent. Donc nous avons vraiment cette certitude que Dieu, il s'occupe de nous comme d'un berger qui s'occupe de ses agneaux, comme d'un père qui s'occupe de ses enfants. Du reste, le terme hébreu d'où vient berger, la racine est très très proche d'un terme qui signifie alors à la fois paître, mais également qui signifie aimer, relativement à un ami. C'est le verbe qui est à l'origine de paître, eh bien, aussi signifie également aimer un ami. Donc on voit que l'Éternel n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui plane quelque part au-dessus des nuages. Non, c'est pas un inconnu, mais c'est quelqu'un qui nous connaît, qui nous aime. Et les brebis, le berger, certaines brebis les a achetées aussi, alors certaines sont nées dans son troupeau, mais il en a acheté un certain nombre et donc elles ont du prix. Elles ont du prix, donc il va les soigner, il va en prendre soin, il va les accompagner sur le chemin. Bon, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Spurgeon, qui était un prédicateur du 19e siècle de Grande-Bretagne, a dit « Avant que l'on puisse dire du fond de notre cœur « L'Éternel est mon berger », on doit se sentir être un mouton par nature. Ah, ah. Voilà qui est peut-être un peu moins drôle. Hein? Surtout que les moutons, Aristote, au 4e siècle avant Jésus-Christ, en parlait comme des créatures insensées, paresseuses, incapables de quoi que ce soit à part errer, incapables de revenir par elles-mêmes à la bergerie, incapables d'affronter un danger. Elles se laisseront mourir si le berger ne vient pas à leur aide. C'est pas, Et puis encore, un naturaliste suisse du XVIe siècle décrit les moutons comme étant des animaux doux, simples, modestes, tranquilles, obéissants, peureux et nigauds. Et sans berger, eh bien, les moutons se perdent. Ils sont déboussolés. Et puis, évidemment, si un des moutons tombe dans un ravin, eh bien, tous les autres moutons vont le suivre. Vous connaissez l'histoire des moutons de Panurge, n'est-ce pas, de François Rabelais, où c'est Pantagruel ou un autre de ses héros voulait se venger d'un certain Panurge. Et qu'est-ce qu'il a fait, qui possédait grande quantité de moutons? Eh bien, il en a pris un, il a précipité un ravin, et tous les autres moutons l'ont suivi. Donc voilà, ce ne sont pas vraiment des moutons qui sont, auxquels on a envie peut-être de s'identifier. Hein. Ce n'est pas un animal qui fait rêver, on va plutôt dire, en tout cas, moi, je ne veux pas être un mouton. Vous êtes d'accord? Ah, moi, je suis un mouton. Si vous allez à un entretien d'embauche et puis vous dites « je suis un mouton », je ne suis pas sûr que vous soyez embauché. On préfère se comparer à un lion, n'est-ce pas? Ah, ou à un ours, voire à un aigle, même un chien éventuellement. Mais se comparer à un mouton, eh bien, ce n'est pas un animal qui fait rêver. Bon, c'est clair, c'est chou, un petit mouton, à qui on donne le biberon pour le nourrir. Mais voilà, c'est pas tout. Et puis pourtant, David s'est identifié à un mouton, hein, en disant que l'Éternel était son berger. On ne peut pas dire que c'était vraiment un mouton, hein, dans sa vie. C'était un guerrier, c'était un homme qui allait de l'avant, qui a conduit de nombreuses guerres. Eh bien, on voit dans le Nouveau Testament que Jésus a dit que si nous ne devenions pas comme des petits-enfants, nous n'entrerions pas dans le royaume des cieux. Eh bien, voilà, on pourrait rajouter qu'il nous faut aussi être devant Dieu comme des moutons. Eh oui. Qui reconnaissent... Alors, entendons-nous bien, donc, des moutons, parce que nous reconnaissons que sans ce bon berger, eh bien, nous ne pouvons rien faire. C'est ça. Sans ce bon berger, eh bien, nous allons errer dans ce monde. It's a jungle out there. Et nous avons besoin de ce berger pour pouvoir avancer, pour ne pas nous perdre, pour ne pas nous perdre dans nos pensées, peut-être, dans nos choix, dans notre vie de tous les jours. Parce que les moutons, ils croient savoir ce qui est bon pour eux. Hein. Ils suivent le leader, puis ils se cassent tous la figure au fond du ravin. Ben nous, on est un peu comme ça. Enfin, moi, je ne sais pas vous. Bon, je ne vais pas sauter en bas un ravin. Mais voilà, on a vite tendance quand même à savoir ce qu'il faut faire et ce qui est le mieux pour nous. Alors, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je vous ai surtout mis des images. Hein. C'est le début de l'année, on est peut-être encore un peu fatigué. Et puis, je trouvais ces images reposantes pour nous. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ou bien, vraiment, si on veut donner le sens, ce serait « c'est dans des verts pâturages ». Qu'il me fait reposer. L'accent est mis sur les verts pâturages. Ce sont des pâturages qui sont gras, qui sont beaux, qui sont confortables. Le reste, le terme hébreu utilisé ici, traduit par pâturage, c'est pas une pâture, c'est pas l'endroit où les moutons vont manger, c'est pas là où il y a la nourriture, mais c'est plutôt un endroit qui est beau, qui est joli, qui est agréable. Et le berger conduisait ses moutons le matin pour aller manger, se nourrir avant qu'il fasse trop chaud. Et ensuite, il les amène dans ces verts pâturages où ils peuvent se reposer. Et c'est vraiment un lieu de repos et de rumination, parce que les moutons ruminent. Oui. Donc, c'est là qu'ils vont digérer la nourriture, tranquillement, couché dans ces verts pâturages. Ça fait envie, hein ? C'est vraiment l'endroit pour se reposer. Et il nous fait, on voit qu'il nous fait reposer dans des verts pâturages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les brebis sont des animaux qui sont extrêmement craintifs. Ils ont très, très peur. Et c'est tout un art pour faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise. Elles ont peur des animaux, des animaux qui pourraient les menacer, mais elles ont aussi peur d'elles-mêmes, entre elles, elles ont peur. La brebis A a peur de la brebis B, qui a peur de la brebis C. Et puis si elles sont dans la crainte, dans la peur, si elles ne se sentent pas en confiance, eh bien, elles ne peuvent pas se coucher. Donc ça demande vraiment beaucoup de... Ça demande parfois beaucoup d'efforts de la part du berger pour permettre aux brebis de se coucher et de se détendre. Il faut qu'elle soit sûre qu'il n'y a aucun danger. Dans le psaume 4, nous pouvons lire « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Et ce matin, eh bien, le Seigneur vient nous dire aussi à nous, mais repose-toi. Même si pour certains, c'est peut-être la fin des vacances, repose-toi. Prends du temps pour lire et pour méditer ma parole. Arrête-toi pour cela. Prends du temps. Repose-toi. Et également, il est dit après, il me conduit à des eaux paisibles. Donc on voit que c'est le berger qui marche devant, il n'est pas derrière son troupeau, puis il envoie ses brebis, allez-y, allez-y, je vous rattrape, avancez vers la rivière. Non, il marche devant. On a vu dans Jean que Jésus marche devant ses brebis également. Et les brebis ont confiance en le berger et elles le suivent. C'est une eau qui est rafraîchissante. C'est l'eau de la grâce auquel nous pouvons nous abreuver. Voilà, nous, des fois, on préfère le coca. Où est-ce que nous allons chercher l'eau qui nous rafraîchit, l'eau qui donne du sens à nos vies, l'eau qui nous permet d'avancer dans la confiance? Des fois, on a tendance à chercher eh bien, peut-être des boissons qui ont l'air beaucoup plus attractives. Et puis, c'est bon, c'est sucré, c'est doux, ou bien c'est amer. Mais c'est peut-être qu'on trouve des boissons qui vont nous plaire, mais ce ne sont pas forcément des boissons désaltérantes. Ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est vraiment à revenir à lui et à boire l'eau que lui nous donne. Et puis, il faut que ce soit des eaux calmes, parce que si ce sont des eaux tumultueuses, les brebis ne vont pas aller boire. Je suis devenu un spécialiste des moutons. Elles ne peuvent pas aller boire. Pourquoi ? Parce que ça leur fait peur. Elles ont peur, et puis surtout, avec le poids de la laine qui est sur elles, elles sont vite déséquilibrées. Puis si elles tombent dans l'eau, eh bien, c'est pas des très bons nageurs, les moutons. Ils ont des courtes pattes, c'est pas des très bons nageurs, et donc ils risqueraient de se noyer. Donc, il paraît, j'ai même lu que si les moutons se trouvaient face à des eaux trop agitées, eh bien, elles étaient capables de se laisser mourir de soif. Alors, je ne sais pas. Mais de toute façon, le berger va leur chercher des eaux qui soient calmes. Alors n'allons pas uniquement là où il y a de l'agitation, là où il semble qu'il y a un courant extraordinaire qui fait passer des eaux pour dire « Oh, ça, ces eaux-là, elles sont bonnes pour nous. » Nous avons besoin des eaux calmes. Et puis ensuite, il restaure mon âme. Alors le verbe restaurer, alors on restaure des meubles, hein, mais on restaure, Dieu restaure également nos âmes. Ce n'est pas seulement le verbe restaurer ici, n'est pas seulement faire revenir à un état normal, récupérer ou rafraîchir, mais c'est aussi être restauré en vue du projet et du but pour lequel nous avons été créés. On l'a rappelé ce matin, nous avons été créés pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour l'honorer. Eh bien, c'est en vue de cela, c'est cela également restauré. Depuis que Adam et Ève ont préféré manger du fruit qu'ils ne devaient pas manger, eh bien, nous avons perdu le projet, nous nous sommes coupés du projet de Dieu pour nous. Et maintenant, eh bien, au travers de l'œuvre de la croix, au travers de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes restaurés. Alors, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Hein. Vous ne pouvez pas vous restaurer vous-même. Enfin, vous pouvez manger, bien sûr, vous alimenter, mais pas vous restaurer au sens de la restauration. Et c'est Dieu qui peut nous restaurer uniquement. On a aussi besoin d'être restauré dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. Ce n'est pas seulement au moment où on se convertit qu'on a besoin de restauration. Mais tout au long de notre vie, nous avons besoin de restauration. Parce que voilà, nous restons dans des corps de pécheurs, nous sommes des pécheurs, puis on tombe, on s'éloigne de Dieu à certains moments peut-être, et encore une fois, seul Dieu peut nous restaurer. Et du reste, voilà ce qui peut arriver à des moutons, c'est qu'ils se retrouvent sur le dos. Et s'ils se retrouvent sur le dos, ils sont incapables de se relever. Ce n'est pas possible. Il faut que le berger soit là pour les relever. Donc, on est. Imaginez rester sur le dos comme ça. Il y a les lions des montagnes, il y a des bêtes sauvages qui sont là et puis qui peuvent venir les attaquer. Elles sont en grand danger de mort. Alors, aussi, soyons attentifs à ne pas nous laisser emporter par peut-être des passions qui nous mettraient sur le dos, comme ces moutons. Parce que là, nous sommes en danger. Nous sommes en danger réel. Notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc il est à l'affût. Il est à l'affût. N'oublions pas que si le berger surveille son troupeau, veille sur son troupeau, il y a plein d'animaux qui ont également l'œil sur le troupeau. Et surtout sur la brebis qui s'égarerait. C'est aussi le terme restauration, c'est se détourner de quelque chose pour se tourner vers. Se détourner de nos péchés pour nous tourner vers Dieu. Et c'est seulement en se tournant vers Dieu que nous pourrons nous détourner réellement de nos péchés et qu'ils pourront être vaincus par Dieu. Donc à nous de faire aussi des bons choix. Dieu, il me conduit sur des sentiers de justice. Dieu est justice. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et on voit dans la parole de Dieu que les sentiers peuvent certains conduire à la vie, mais d'autres peuvent conduire à la mort aussi. Donc, si nous marchons par nous-mêmes, nous pouvons nous tromper de sentier et nous trouver sur un sentier qui conduit à la mort. Alors que là, eh bien, si nous suivons le bon berger, comme ce troupeau, eh bien, nous allons pouvoir être conduits dans le bon chemin, au bon endroit. C'est parfois plus large qu'un simple sentier, hein, ce n'est pas forcément des sentiers toujours très étroits, le terme qui est là, mais ça peut l'être aussi, ça peut être escarpé, ça peut être dangereux, ça peut être inconfortable. Et nous sommes, voilà, les sentiers ne sont pas toujours faciles à suivre, non plus. Entrez par la porte étroite, dit Jésus dans Matthieu. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Là, nous trouvons, suivant le sentier que le berger, sur lequel le berger nous guide, eh bien, nous trouvons toutes choses en abondance. Et en étant en Christ, nous disons souvent que nous sommes des nouvelles créatures, hein, ce qui est juste. Donc, nous avons besoin de nouveaux sentiers. On ne peut pas continuer de marcher sur nos anciens sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Et c'est sur ces sentiers-là, eh bien, que le Seigneur nous conduit. Et il le fait à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de nos beaux yeux ou de nos bonnes actions ou quoi que ce soit, c'est pour l'honneur de son nom. L'Éternel règne et il fait tout cela, il nous conduit sur ses sentiers de justice à cause de son nom. On peut avoir également une confiance totale en lui. On l'a vu, il est souverain, il règne, donc nous pouvons mettre notre confiance en lui. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne le fera pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Disait déjà Moïse dans les Nombres. Et car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Dans le psaume 31. Donc voilà, à cause de son nom. Donc si c'est à cause de son nom, à cause de son honneur, eh bien, nous pouvons être confiants qu'il nous conduit sur le bon chemin. Il ne va pas nous conduire sur des chemins un peu de traverse en disant « Ah, je vais voir comment ils se débrouillent. » Ils vont se perdre, les pauvres. Tant pis pour eux. Ils n'ont fait qu'à leur tête. Mais pas du tout. Le Seigneur nous conduit sur des sentiers de justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, c'est intéressant, on voit dans ce... Ah voilà, oui. On voit à partir de ce verset qu'il y a un changement ça devient un dialogue. Ce n'est plus l'Éternel est mon berger, mais c'est tu me rassures. Il y a un je et un tu. Il y a une relation qui est là, qui existe, qui est forte entre le berger et l'Éternel. Et on voit que les sentiers de justice dans lesquels le Seigneur nous conduit ne mènent pas que toujours à des paysages, à des pâturages gras. Ils peuvent nous conduire également sur des sentiers dans l'ombre de la vallée de la mort. Et c'est également le mot hébreu, vallée de la mort, signifie également puissante obscurité. Donc le Seigneur peut nous amener dans une puissante obscurité. Et ça, c'est quelque chose par lequel nous passons tous au cours de notre vie, à plusieurs reprises certainement, hein, dans des situations de deuil, dans des situations de perte, dans des situations qui sont angoissantes, dans des situations dans lesquelles on croit qu'on ne va pas s'en sortir, dans des maladies, dans différentes épreuves que l'on connaît tous, plus ou moins. Mais même là, nous pouvons compter sur Dieu. Et même dans ces situations les plus effrayantes, eh bien, les plus tragiques, même lorsque la mort est à la porte, eh bien, Dieu est avec nous, ce bon berger est avec nous. Et cette vallée de l'ombre de la mort, si c'est à la mort qu'elle conduit, à un moment donné où nous devrons tous passer par là, eh bien, ce n'est pas une vallée en cul-de-sac dans laquelle, eh bien, que la mort, tout s'arrête, et puis tout est terminé, où il n'y a plus d'espoir. C'est vraiment un chemin qui nous conduit vers une éternité de délices avec Dieu. Ainsi, on voit là au travers que David nous dit, mais ne craignez pas la mort, ne craignez pas les difficultés, je suis avec vous. Et nous sommes en sécurité, il y a la houlette, il y a le bâton également du berger qui sont là. Et Dieu nous ouvre le chemin, c'est lui qui nous ouvre le chemin et qui le prépare. et jamais il ne nous abandonnera. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dans le psaume 27, toujours David. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Et voilà quelque chose encore d'extraordinaire, c'est-à-dire que Dieu dresse pour nous une table en face de nos ennemis. Donc, nos ennemis n'ont pas disparu, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, et voilà que Dieu prépare une table pour nous en face de nos ennemis. Et puis, ce n'est pas une table qui est préparée à la hâte, allez, on va vite faire un petit pique-nique, reprendre des forces pour aller de l'avant. Non, c'est une table qui est préparée avec soin, avec calme, avec amour. C'est une table à laquelle nous pouvons nous asseoir, à laquelle nous pouvons manger, nous alimenter. Et ça, comme si tout était en paix autour de nous. Les ennemis sont là, mais le berger prépare une table pour nous, même en face de nos ennemis. Et il oint nos têtes d'huile, c'était voilà, la coutume aussi de verser de l'huile à nos hôtes, et avec abondance, puisque même notre coupe déborde. Donc Dieu donne avec abondance, il ne donne pas parcimonieusement ou goutte à goutte, mais avec abondance. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Super, vous êtes avec moi. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, on l'a déjà dit à plusieurs reprises au culte ici, que c'est un Dieu d'abondance, qui donne avec abondance et qui ne donne pas au goutte à goutte. Intéressant, ce verbe déborder ici, c'est la seule fois où il est utilisé dans l'Ancien Testament, et dans la version des Septante, il a été traduit comme « ta coupe me réjouit comme le meilleur des vins ». Wow. Dans ce repas, nous sommes accueillis, nous sommes oints et nous avons le meilleur des vins qui nous est donné. Oui, le bonheur et la grâce, où la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai tous les jours de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, encore une fois, c'est oui. David affirme les choses. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas possiblement, peut-être, éventuellement, si tout se passe bien. Non, c'est oui. Ah non, c'est oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Il a vraiment cette assurance. C'est, il le fait de manière... c'est intéressant. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas simplement que j'avance et puis qu'ils sont à mes côtés, comme ça, tranquillement. En fait, c'est un verbe extrêmement fort qui veut dire « me poursuivront ». Ta bonté, la grâce de l'Éternel, nous poursuivront chaque jour. Ils sont à nos trousses. La grâce et la bonté de l'Éternel sont à nos trousses. Alors, on peut partir en courant parce qu'on en a peur. On se dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Ben non, c'est la grâce et l'Éternel, la grâce et la bonté qui sont là, qui veulent nous rejoindre, qui veulent vraiment marcher avec nous et qui nous poursuivent. Je trouvais fort cette image de poursuite de la part de la bonté, de la grâce de l'Éternel. Et David dit qu'il vivra tous les jours. Nous pouvons vivre déjà tous les jours dans la communion avec Dieu. Alors, au début de cette nouvelle année, eh bien, nous avons cette certitude, ou nous pouvons avoir cette certitude. Je nous encourage à pouvoir le dire, à pouvoir le proclamer, l'Éternel est mon berger. Oui, la grâce et la bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, j'habite dans la maison de l'Éternel. Et nous voyons dans ce psaume que ce que le bon berger fait pour nous, eh bien, transcende toutes les circonstances de notre vie. On voit que quand nous sommes fatigués, il nous donne du repos dans de verts pâturages. Quand nous avons soif, il nous conduit auprès d'eau paisible, afin que nous puissions boire. Quand nous avons des besoins spirituels, il restaure notre âme. Quand nous bataillons avec le péché, il nous conduit sur des chemins de justice. Quand les circonstances, même la mort, obscurcissent nos vies, il marche à côté de nous dans la vallée sombre. Quand nous avons besoin de réconfort, il nous réconforte. Quand nous avons besoin de protection, il nous protège avec son bâton et sa houlette. Quand nous avons faim, il nous nourrit d'un festin de roi. Quand nous sommes fatigués, il nous oint d'huile. Quand le trouble nous environne, la bonté et la miséricorde nous accompagnent dans la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Et quand à la fin de nos jours, quand à la fin de nos jours, la mort apparaît comme une fin en soi, nous avons la promesse que nous habiterons dans la maison du Seigneur pour toujours. Que de bénédictions dans ce psaume 23. Alors voilà, vraiment, que, alors que nous sommes face à cette année 2023, si je reprends cette première diapositive, eh bien, nous pouvons rajouter « Dieu est avec nous et nous guide sur son chemin ». Amen. Alors que nous puissions vraiment avancer, aller de l'avant dans la paix, dans la confiance et dans la reconnaissance. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes ces promesses. Parce que, quelles que soient les circonstances de nos vies, quelles que soient les situations que nous traversons, les situations que nous traverserons pendant cette année, eh bien, tu nous dis que tu es notre bon berger. Tu es mon berger. Tu es notre berger. Merci, Seigneur, pour toutes ces promesses. Merci pour ton amour qui déborde, qui nous poursuit, qui ne nous laisse pas en repos parce que tu veux que nous marchions sur tes chemins, les chemins que toi, tu as préparés, qui connaît, qui nous amène à nous, ou bien que tu as prévu pour nous. Alors, Seigneur, eh bien, nous sommes dans la reconnaissance encore, dans la joie de tout ce que tu fais pour nous et de tout ce que tu vas faire pour nous en cette année. Que ton nom soit béni. Amen.